Les penseurs chrétiens. Les penseurs chrétiens, une émission proposée par Philippe Soil, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Nous parlerons de l'héroïsme de la liberté chez Descartes. Parler d'héroïsme et parler de héros semblera étrange à beaucoup d'oreilles de nos contemporains. Le héros semble quelque chose de dépassé, parfois même on s'en moquerait, et nous avons tous en tête un héros tout à fait étrange qui est Don Quichotte. Cependant, quand nous voyons des pompiers risquer leur vie pour sauver une cathédrale, Notre-Dame de Paris, quand nous voyons un homme sacrifier sa vie pour sauver celle d'une femme, nous voyons bien des héros et nous voyons bien que le concept d'héroïsme est toujours nécessaire pour penser certaines actions aujourd'hui comme hier. Le concept de héros est un concept grec, notamment. Nous le rencontrons dans l'Iliade d'Homère et nous méditerons cette notion de l'héroïsme. Quand nous lisons l'Iliade, nous découvrons une maxime qui est dans la bouche du vieux Pélée lorsqu'il parle à son fils Achille. Cette maxime est énoncée deux fois dans l'Iliade. Elle est la suivante : toujours être le meilleur et surpasser tous les autres. Voilà le conseil que donne un père à son fils : sois toujours le meilleur et surpasse tous les autres. Voilà la conception grecque de l'héroïsme : être meilleur que les autres et surpasser tous les autres dans certains domaines. Alors, pour le héros grec, le héros de l'Iliade notamment, être le meilleur, c'est être le meilleur dans l'art de la guerre, au combat, et c'est être aussi le meilleur à l'assemblée. En train d'entendre le meilleur conseiller à l'assemblée, que lorsque des hommes se réunissent ensemble, ce sont des nobles, des rois, dans l'assemblée des rois dans l'Iliade, qui se rassemblent pour délibérer et voir la conduite de leurs affaires, la fameuse guerre de Troie. Voilà, nous voyons donc ici un homme qui doit être le meilleur à la bataille, dans la guerre, et qui doit être le meilleur à l'assemblée. Achille est à coup sûr cet homme-là, il est le meilleur et il surpasse tous les autres. Nous nous rappelons que lorsqu'il disparaît du champ de bataille, les Achéens perdent ou ne savent même plus combattre, et que quand il apparaît sur le champ de bataille, aussitôt, ce sont les ennemis, les Troyens ici, qui perdent contenance. Voilà. Alors là, nous sommes très loin du héros moderne, et en même temps pas si loin, puisque la guerre est un problème qui subsiste. Mais il nous faut voir maintenant avec Descartes comment Descartes repense ce bon vieux problème de l'héroïsme. La découverte étonnante, c'est ceci. Descartes repense la notion de héros en la pensant à partir de l'idée de la liberté. Ce qui veut dire que le héros devient maintenant quelque chose dont tout homme est susceptible. Dans l'Iliade, on voit bien que seul un certain type d'homme, le noble, l'aristocrate, est par définition, presque pourrait-on dire, le héros est capable d'héroïsme. Le propre du monde moderne, et Descartes ici est un penseur moderne, c'est que l'héroïsme, chacun d'entre nous en est capable. Et là encore, si je reviens à mon exemple du commencement, un simple ou modeste pompier, ou officier, ou que sais-je, ou soldat, peut se montrer héroïque dans un combat, qui n'est pas nécessairement un combat militaire. Voilà. Donc la grande découverte de Descartes, c'est que tout homme est capable d'un certain héroïsme. Alors, quel héroïsme? Eh bien, c'est l'héroïsme de la liberté. Parce que tout homme est capable de faire un bon usage de sa liberté, et par là, tout homme est capable de s'élever à une forme héroïque de la liberté. C'est cela qu'il nous faut méditer aujourd'hui. Cela implique que l'homme est capable d'une grandeur qui lui est propre, et ici, cette grandeur, c'est la grandeur de sa liberté. Ou plutôt, c'est la grandeur de l'usage de sa liberté. Tout homme, quel que soit le milieu dans lequel il est né, est capable de faire un excellent usage de sa liberté et par là de manifester la noblesse de l'âme qui est la sienne, capable donc d'être un héros. Vous voyez donc ici, le héros n'est plus nécessairement un héros sur le champ de bataille, mais un héros dans l'usage étonnant et grand qu'il fait de sa liberté. Nous avons donc ici affaire à une universalisation d'un idéal aristocratique. Ce qui au départ est réservé à une élite, à un petit nombre d'hommes, les aristocrates, les nobles, est maintenant promis ou possible à tout homme, pourvu qu'il sache faire un usage, un bon usage de sa liberté. L'idéal aristocratique, donc, on pourrait dire, se démocratise ou plutôt s'universalise. Et par là, donc, dans la prose du monde moderne, nous voyons surgir une conception héroïque de la liberté. Cela tient au fait que pour Descartes, la noblesse de l'homme est d'abord une noblesse de tout homme. c'est pas la noblesse de tel ou tel homme d'abord. Rappelons que Descartes lui-même est de petite noblesse. Descartes, on écrivait en deux parties avec la particule à son époque. Mais pour Descartes, justement, en vertu de la liberté qui est la sienne, tout homme est dépositaire d'une, ou titulaire d'une certaine noblesse. Nous nous rappelons que pour Descartes, Dieu est liberté. Nous savons aussi que pour Descartes, Dieu n'est pas comme nous assujetti à des vérités dont nous croyons qu'elles sont éternelles, mais qu'il est l'auteur, qu'il est le créateur de ces vérités. Le Dieu de Descartes est donc un Dieu libre, un Dieu qui est l'auteur de ce qui pour nous est vérité. Et puisque l'homme est à penser comme étant à l'image, à la ressemblance avec Dieu, cet homme, l'essence de l'homme, c'est la liberté. Et nous comprenons donc par là que cette essence concerne tout homme, et qu'il en découle que tout homme doit être capable d'un bon usage de sa liberté. La métaphysique de Descartes est ainsi bel et bien une métaphysique de la liberté. Considérons rapidement les degrés de la liberté. Parce que pour Descartes, il est clair que la liberté comporte plusieurs degrés. Nous avons d'abord le plus bas degré de la liberté dans ce qui s'appelle le libre arbitre. Nous nous rappelons aussi que la notion de libre arbitre remonte à saint Augustin. L'idée de libre arbitre chez saint Augustin renvoie à l'idée d'un pouvoir de soi-même sur soi-même, à l'idée d'une libre disposition de soi de la volonté et d'une libre disposition de soi l'esprit tout entier. Chez Descartes, nous rencontrons des degrés dans l'usage de la liberté. Le plus bas degré, c'est ce qu'il appelle la liberté d'indifférence. Alors, l'image la plus simple à trouver, c'est celle d'une balance. Lorsque nous mettons des poids égaux des deux côtés dans les deux plateaux de la balance, les deux plateaux de la balance sont à égalité et il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Il y a donc indifférenciation des deux plateaux. Aucun poids n'emporte un plateau contre un autre. Donc ici, par comparaison, nous avons à penser la liberté humaine dans son plus bas degré. Indifférence, c'est-à-dire que les deux plateaux de la balance sont à égalité, et indifférence négative, quand il y a autant de raisons de vouloir une chose qu'une autre, et à ce moment-là, donc, de même que les deux plateaux de la balance sont à égalité, de même ici, donc nous sommes dans une indifférence, nous sommes indifférents à ceci autant qu'à cela. Mais cette indifférence tient d'abord à notre ignorance, parce que nous manquons de raisons et nous manquons de connaissances qui nous feraient savoir qu'il vaut mieux ceci plutôt que cela. Le deuxième degré du libre-arbitre, c'est l'indifférence positive maintenant. Non plus l'indifférence négative par ignorance, mais l'indifférence positive. C'est le pouvoir qu'a tout homme de choisir entre des choses contraires. Et voyez bien que nous avons cette capacité de choisir parmi des contraires. L'indifférence positive ici signifie que j'ai beau avoir autant de raisons de vouloir une chose qu'une autre, eh bien, je suis capable justement de sortir de cette indifférence, de sortir de cette indétermination, et je peux choisir une chose plutôt qu'une autre. Le plus haut degré de la liberté chez Descartes, c'est ce qu'il appelle la liberté éclairée. Dans la liberté éclairée, la volonté humaine se détermine, elle se détermine librement, et elle se détermine par une connaissance aussi parfaite que possible du vrai et du bien. À ce moment-là, il y a liberté éclairée. Chaque fois qu'un être humain, parce qu'il sait ce qu'il est bon de faire, l'action qu'il est bon de mener à bien, fait l'élection de cette fin. Donc il y a ici une élection, un choix du vrai et du bien à partir de la connaissance du vrai et du bien. Nous noterons ici la coopération entre la volonté et l'entendement, ou la raison. Il faut bien que ma raison me montre le vrai et le bien, mais il faut ensuite aussi que ma volonté y consente, que ma volonté fasse élection de ce que mon entendement, ce que ma raison m'a présenté comme vrai et comme bien. Cette liberté donc est éclairée par la raison, et une liberté éclairée par la raison est maintenant capable de consentir librement à la vérité et au bien qui lui a été proposé par son entendement. La liberté humaine, pour Descartes, est, dit-il, la principale perfection de l'homme. Je cite, « La principale perfection de l'homme est d'avoir un libre arbitre, et c'est ce qui le rend digne de louange et de blâme. C'est pourquoi, ajoute Descartes, nous sommes tellement les maîtres de nos actions que nous sommes dignes de louange lorsque nous les conduisons bien. » Fin de citation. Donc ça veut dire que l'homme, lorsqu'il agit bien, est digne de louange, mais inversement, lorsqu'il agit mal, est digne de blâme, évidemment. Voilà donc une idée capitale. C'est que la perfection de l'homme n'est pas tant dans sa capacité de connaître, dans la perfection de sa connaissance ou de sa science, que dans la perfection de son libre arbitre, c'est-à-dire dans la volonté. Il y a bien quelque chose de nouveau. Ce qui est le plus beau en l'homme et ce qui fait sa perfection, ce n'est plus tant sa science que sa volonté. C'est-à-dire que le bon usage qu'il est capable de faire de son libre arbitre. Ce par quoi l'homme est admirable, donc ce n'est pas tant parce qu'il est capable de savoir, comme nous sommes capables de savoir en astrophysique, en droit, en économie, etc. Le plus admirable en l'homme, c'est qu'il est capable de faire un usage de sa liberté et qu'il est capable de faire un usage de sa liberté pour la conduire à la liberté éclairée. C'est-à-dire qu'il est capable de savoir ce qu'il est bon d'accomplir et bon de faire et de l'accomplir librement. À ce moment-là, l'homme qui est parvenu à cette hauteur est digne de louange. Vous voyez bien qu'il y a ici deux points. Il y a le fait que cet homme agit bien, chaque fois que l'occasion se présente, donc dans la vie quotidienne, mais il y a quelque chose qui est en amont. Parce que si nous sommes capables d'agir tel jour à telle heure de bonne façon pour mener à bien une action à l'égard d'autrui ou de nous-mêmes, c'est bel et bien parce qu'il y a quelque chose qui s'est joué en amont. Ce quelque chose, Descartes l'appelle la libre résolution. C'est la résolution de soi. Parce que un homme est devenu capable d'agir bien ponctuellement à partir du moment où il s'est rendu profondément capable d'agir bien, tout simplement, et cela en vertu d'une libre disposition de soi, qui est une libre résolution de soi. Nous voyons donc par là que la liberté n'est pas quelque chose comme une nature, n'est pas une donnée initiale, une donnée naturelle, et cela n'a rien à voir avec un caractère qui serait comme inné, ou quelque chose qui serait inévitable, évidemment. Nous voyons ici que la liberté, en un sens, dépend de nous. C'est-à-dire que l'usage que chacun fait de sa liberté dépend bel et bien de chacun. Et nous voyons qu'ici, à la source de tous nos actes, de toutes nos décisions, se trouve une décision qui, dans la vie quotidienne, reste invisible, qui est la décision de devenir vertueux, pour parler en termes classiques comme Aristote ou Platon, qui est la décision, en termes cartésiens, de faire un bon usage de ma liberté.
Les penseurs chrétiens. Philippe Soil, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Nous voyons maintenant bien le lien entre l'idée de Dieu et l'idée de la liberté. Si Dieu est liberté, l'homme créé à son image, à sa ressemblance, est liberté à sa manière. Il nous faut donc bien éclaircir cette liberté humaine et cet usage de notre libre arbitre. Le libre arbitre définit bien pour Descartes l'essence de ce qu'il appelle en latin « mens humana », l'esprit humain, ou ce qu'il appelle aussi « res cogitans », la chose qui pense. Qu'est-ce que je suis ? Je suis une chose qui pense, et une chose qui pense, nous découvrons maintenant que c'est ce qui est libre. Et ce qui est libre ici, en profondeur, par rapport à soi-même et par rapport à toute chose. La liberté, pour Descartes, est une des premières idées, et une des premières idées innées, cela veut dire constitutive de l'esprit humain. Comme il l'écrit dans les Principes, la liberté est parmi les premières et suprêmes notions communes qui nous sont innées. Ça veut dire que ce n'est pas chronologique, évidemment, le nourrisson n'a aucune idée de la liberté, mais en vérité, selon l'ordre de la vérité, si nous cherchons les notions premières dans l'esprit humain, eh bien nous découvrons que la liberté est une des notions les plus essentielles et plus importantes, et qu'elle est bien une notion commune. Comme le dit Descartes, je cite un passage, « Nous avons une volonté libre qui peut donner son consentement ou ne pas le donner quand bon lui semble. » La volonté libre se connaît par expérience. C'est l'expérience que chacun d'entre nous a de pouvoir donner son consentement ou ne pas le donner. Alors, ce pouvoir de donner son consentement, ce pouvoir de consentir, nous l'examinons, nous l'expérimentons tous les jours dans des choix les plus triviaux de notre vie quotidienne. Je veux ou je ne veux pas, je consens à ceci et je ne consens pas à cela. Je consens à ceci et je fuis ou je rejette cela. Mais il faut le voir de manière plus profonde, parce que ce pouvoir de donner son consentement, c'est le pouvoir d'abord de consentir à une pensée, puisqu'il faut d'abord que la raison me présente des pensées, des objets, des fins, par exemple dans le choix du métier. Quel métier pourrais-je exercer et en vue de quoi? Et à ce moment-là, à partir des idées que ma raison me présente, j'ai ce pouvoir précisément de faire l'élection d'une certaine idée. Par exemple, l'idée de devenir philosophe ou l'idée de devenir charpentier. Voilà. Et donc, la volonté libre est bien ce pouvoir de consentir à une pensée, de consentir à la vérité. Mais j'ai aussi bien le pouvoir de ne pas donner mon consentement, et comme le dit Descartes, chaque fois que bon me semble. Donc, il y a bien ici aussi quelque chose qui laisse place à ce que nous appellerons aussi l'arbitraire, puisque là aussi Descartes en parle ailleurs. Nous sommes capables, alors même que nous concevons qu'une chose est excellente, de ne pas la vouloir, de ne pas y consentir, simplement pour affirmer par là notre libre arbitre, pour affirmer par là que la vérité elle-même n'est pas pour nous une nécessité, mais que la vérité est ce à quoi nous pouvons et nous devons consentir par liberté. Nous comprenons aussi par là que le premier acte de la liberté, nous le voyons dans les méditations métaphysiques, c'est le doute. C'est la capacité de mettre en doute, d'examiner toute chose, parce que nous sommes habités par l'idée de la vérité. Donc le premier usage de la liberté, c'est le doute, et qui peut conduire à la suspension du jugement. Parce que la vérité, si elle nous est donnée, il nous faut encore maintenant y consentir. Et c'est donc bien pourquoi Descartes l'avait souligné dans les méditations, c'est avec liberté que l'homme qui entreprend de chercher la vérité commence par douter de ce qu'il a reçu et de ce qu'il a considéré comme vrai jusqu'alors. Descartes y insiste, je cite, « Nous avons un libre arbitre qui fait que nous pouvons nous abstenir de croire les choses douteuses et ainsi nous empêcher d'être trompés. » Nous voyons par là que le premier usage de la liberté se fait du côté de la pensée et non pas d'abord du côté de l'agir. Nous pouvons être libres en agissant ainsi plutôt qu'autrement, mais la liberté est d'abord une liberté intellectuelle. C'est que nous sommes capables d'examiner toute chose, toute pensée, et par là de découvrir le douteux, et de découvrir le faux, et de refuser le faux, notamment. Et donc nous pouvons nous abstenir de croire des choses douteuses, et par conséquent nous ne sommes pas inévitablement trompés par le faux, mais nous avons la liberté, l'ayant examiné, de le rejeter. C'est tout à fait important, parce que s'il n'y a pas d'abord de liberté intellectuelle, de liberté dans la recherche de la vérité, et il n'y aura pas ensuite de liberté dans l'ordre de l'action. Cela veut dire, comme nous l'avons vu tout à l'heure, que tout exercice concret de la liberté procède d'un acte antérieur à tous mes actes, d'une décision antérieure à toutes les décisions particulières, qui s'appelle bel et bien une résolution intérieure. Je me suis résolu à devenir un sage, je me suis résolu à chercher la vérité, et dans l'ordre de l'action, je me suis résolu en toute chose de parvenir à la plus haute perfection dans l'usage de mon libre arbitre. Cette perfection se nomme vertu. Il faut donc bien faire un bon usage de mon libre arbitre afin de chercher l'évidence du vrai et afin de chercher l'évidence du bien. Cela veut dire que la philosophie de Descartes, relativement à l'idée de la liberté, est une philosophie de l'effort. Être libre n'est pas une donnée initiale. Être libre, c'est le fruit d'un effort, d'un travail. Aristote déjà notait que c'est tout un travail que de devenir vertueux. Nous en retrouvons ici un écho. C'est un effort spirituel. Il me faut commencer par chercher la vérité. Ayant trouvé du vrai et du bien, il me faut ensuite me décider à accomplir ce vrai et ce bien. Et donc l'effort accompagnera tous nos gestes et accompagnera toutes nos pensées et finalement toutes nos volitions. La liberté donc n'est pas un fait, n'est pas une donnée de nature, c'est un effort et c'est une conquête. Et c'est en ce sens-là aussi que nous retrouvons l'idée de l'héroïsme. Avec la différence sans doute que le héros, tel que les Grecs le comprenaient, était né héros, il était héros par nature. Je rappelle que le mot héros, Platon fait le jeu de mots, est à rapprocher du mot eros. Et que c'est le mot eros qui signifie l'amour. Pourquoi ? Parce que le héros grec est le fils de l'amour, eros, entre un dieu et une mortelle, ou bien entre une déesse et un mortel, un homme. Nous avons donc là l'origine du mot héros chez les Grecs. Mais nous voyons maintenant que le héros moderne, le héros de la liberté dont nous parlons, signifie donc ici une conquête intérieure. C'est un effort de soi à l'égard de soi-même, et c'est bel et bien une conquête intérieure, puisqu'il faut, par des degrés successifs de maturité, parvenir à poser cet acte que j'appelle la résolution intérieure de soi. Cette décision, pour le dire autrement, libre décision foncière, fondamentale, qui orientera dorénavant toute ma vie, et qui ne sera pas évidemment exemple de chute ou de rechute, mais qui fera que j'aurai toujours cette résolution fondamentale qui m'orientera vers le bien et qui me permettra de me relever. Voilà, nous avons donc ici quelque chose de tout à fait précieux. Descartes, je cite un passage, dit ceci: « L'homme peut n'avoir pas toujours une parfaite attention aux choses qu'il doit faire. C'est donc une bonne action que de l'avoir et de faire par son moyen que notre volonté suive si fort la lumière de notre entendement qu'elle ne soit point du tout indifférente. » Voilà donc l'attitude la meilleure, c'est l'attention à ce que nous avons à faire, à notre obligation, l'attention au bien qu'il nous faut accomplir, et c'est déjà une bonne action que d'avoir attention au bien, que de chercher ce qu'il est bon d'accomplir dans telle circonstance déterminée, comme professeur, comme médecin, comme ouvrier, dans tous les milieux, dans tous les métiers, comme père de famille, mère de famille, etc. C'est donc déjà une bonne action que d'être attentif au bien et que de faire l'effort de discerner le bien. Et ensuite, c'est le fruit de cette bonne attention qui nous permet de parvenir à la liberté éclairée. La liberté éclairée, donc, c'est que ma volonté consent à la lumière de ma raison, et par conséquent, ma volonté, au lieu de rester dans l'indifférence dont nous avons parlé, ma liberté se résout au bien. Nous voyons donc que la liberté, ici, est en relation à elle-même et a pour finalité elle-même. La liberté, c'est l'essence de l'âme humaine, et c'est en même temps sa destination intérieure véritable. Nous sommes potentiellement libres, mais il faut faire un usage de cette liberté qui confirme cette liberté, de telle sorte que c'est bel et bien notre destination spirituelle véritable. Un autre point capital, c'est le fait que tous les hommes peuvent l'avoir. Et ça, c'est vraiment très important pour Descartes. Il n'y a pas d'homme assez bas pour ne pas être capable de se relever étant tombé et de faire un bon usage de la liberté. On peut donc parler ici d'une universelle noblesse. Je cite un passage de Descartes: « Le libre arbitre est de soi la chose la plus noble qui puisse être en nous, d'autant qu'il nous rend en quelque façon pareil à Dieu et semble nous exempter de lui être sujet, et que par conséquent, son bon usage est le plus grand de tous nos biens, il est celui aussi qui est le plus proprement nôtre. »